Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Question du public.
Vous êtes sur la zone payante en compagnie de Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette. Steph, on a des questions du public encore aujourd'hui en grand nombre.
Notre public est en feu, Jean-Nic.
Oui, et là, on va essayer d'en faire le plus possible cette semaine. On en a des quand même à développement, là. Alors, on va essayer d'en faire le plus possible. On va commencer par la question de Luc Mamaro, qui nous pose la question. Je suis le foot depuis une vingtaine d'années. Mais ayant grandi en France, ce n'est pas ma spécialité. Ça tombe bien, nous, le rugby, c'est pas notre spécialité non plus. Mercredi passé, Stéphane a dit que Matt Ryan a du mal à jouer son rôle dans sa division. Mm. En quoi jouer au foot dans une division ou une autre fait une différence? Selon ce que je vois du foot, ça reste du foot. Merci pour votre balado. Steph.
Merci pour la question. Sauf erreur, Jean-Nic, je me demande si c'est pas toi qui avais dit cette phrase-là durant nos prédictions.
Mais oui, parce que Matt Ryan a une très mauvaise fiche dans sa division.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, peu importe qui le dit, là, l'intéressant, c'est de répondre à la question. Je suis pas sûr que jouer au foot dans une autre division ou dans une division ou une autre fait une différence, sauf dans certains cas, moi je dirais. Je pense à la division nord de l'AFC, la fameuse AFC North, par exemple, qui pratique un style traditionnellement très dur, très physique. Ça, c'est comme ça. C'est pas un addon là, depuis 3 ou 4 ans. Là. C'est comme ça depuis toujours. Ben, il y a des corps arrière qui vont beaucoup mieux performer dans une division comme ça parce qu'ils sont faits sur mesure un peu. Tu sais, je pense à Big Ben avec les Steelers dans les belles années, là, pas à la fin, là, ce qu'on a vu qui était un peu plus triste. Mais Big Ben, à ses belles années, je pense qu'il faut admettre que dans cette division-là, c'était tout simplement le prototype de corps arrière parfait. T'sais. Il pouvait jouer avec 3 gars accrochés à ses épaules, 1 à ses jambes, décocher une bombe quand même. Un gars comme Lamar Jackson avec les Ravens aussi, tu sais, cadre très bien. C'est pas une division tout en finesse. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il y a des corps arrière qui peuvent faire effectivement plus dans un style de division qu'une autre. Mais il y a des divisions aussi qui sont plus volatiles où pendant quelques années c'est physique, d'autres années c'est plus en finesse, puis que là le corps arrière aura pas nécessairement selon son style de jeu là une importance. Mais effectivement ben des fois ça peut être le cas. Là.
Mais il faut aussi être capable de gagner contre ses rivaux de division. Tes affrontes ben
oui.
6 fois.
Ben oui. Alors c'est la base.
Là déjà ça fait 5 matchs que Matt Ryan joue contre les rivaux de sa division, puis il y a une victoire.
Ben, tu sais, je regarde, tu parles d'être capable de battre sa division. Moi, il y a rien de tel que Matthew Stafford quand il était dans la NFC North, donc avec les Vikings, les Bears, les Packers, lorsqu'il était avec les Lions, lui, il gagnait à peu près jamais dans la division. Puis on se disait, Matthew Stafford, jamais il va gagner rien parce que même dans cette division, il est pas capable de se démarquer. Puis finalement, il change de place, il arrive à LA, beaucoup mieux entouré, beaucoup mieux coaché. Puis finalement, il gagne un Super Bowl, tu sais. Donc, faut pas nécessairement prendre toujours ça pour du cash non plus.
Question de François Perron sur Twitter qui t'a interpellé à Escadorette JDQ. Comment expliquer la différence d'efficacité des choix de jeu de Mike McDaniels lors de séquences cryptées, première séquence du match ou retour à la mi-temps, versus ses appels au courant du match? À mon œil, l'attaque est beaucoup plus dangereuse quand c'est scripté.
C'est intéressant comme question, François. Je vais essayer d'y répondre, mais j'aimerais ça que tu te prononces aussi, Jean-Nic, parce que je pense que tu rates pas une seconde des affrontements des Dolphins, donc tu vas être aussi bien placé. Les jeux scriptés, là, pour répondre aux gens, habituellement, c'est une séquence de 15-20 jeux que l'équipe a déjà prévu et pratiqué beaucoup d'avance. Là. C'est une habitude pour l'histoire qui a été instaurée par Bill Walsh avec les 49ers dans les années 80. Il arrivait avec ça, lui, 15-20 jeux scriptés. Il surprenait l'adversaire, il trompait un peu le tempo. Donc, c'est une tradition qui s'est poursuivie par après. On voit encore ça beaucoup aujourd'hui. T'sais, ça permet d'attaquer la défensive avant qu'elle s'ajuste. T'sais, tu peux voir un peu des tendances qui se dégagent. Comment la défensive réagit après une longue passe. Est-ce que tel joueur au poste de demi de coin qui est blessé, il est vraiment, vraiment blessé? Est-ce qu'on peut l'attaquer un peu plus? C'est des trucs comme ça. Cela étant dit, moi, j'ai pas forcément remarqué tant que ça. Là, tu pourras me corriger, Jean-Nic, si je me trompe. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais avec les débuts de match des Dolphins, j'ai fait le tour de tous les débuts de match des Dolphins cette saison. Ça a donné leur première séquence, 2 placements, 3 bottés de dégagement, 1 interception et 1 touché. T'sais, on ne peut pas parler dans ce cas-ci d'une tendance vraiment claire et nette comme quoi les jeux scriptés sont plus efficaces. Mais j'ai hâte de t'entendre, là, toi qui a rien raté de leur action.
Ouais, ben non, mais c'est sûr que si on se fie au match de dimanche, là, la première drive a été très, très efficace.
Ah oui, très convaincant. Là.
Puis c'est vrai que la plupart du temps, les Dolphins partent bien les matchs avec Mac McDaniels comparativement à des saisons précédentes où c'était toujours, on se demandait s'il avait pratiqué pendant la semaine. Mais ceci étant dit, tu sais, toi, le meilleur QB rating de la ligue au quatrième quart. Et qu'on peut continuer, on peut en déduire que les
jeux. C'est pas dans le scripté rendu là, là.
C'est ça, là, tu sais, là. C'est plus dans le scripté. Quoique, des fois, j'ai l'impression, ça aussi, tu peux me corriger, Steph, mais tu sais, qu'il y a des moments où c'est scripté comme début d'une demi ou début du match. Mais le 2-minute drill aussi, souvent, là, tu sais, il est scripté. Puis ça aussi, ça va assez bien du côté des Dolphins. Mais pas assez pour dire qu'il y a une différence. Ceci étant dit, est-ce que l'attaque est plus dangereuse quand ils sont mieux préparés? D'après moi, c'est l'ensemble des équipes de la NFL qui vivent ce genre de succès quand la première drive est bien préparée puis que le plan de match est, tu sais, que l'autre équipe n'a pas le temps de s'ajuster.
C'était évident dimanche contre les Steelers qu'il y avait quelque chose. Là, ils ont entamé le match, c'était impeccable. Après ça, l'attaque s'est complètement calmée. Là, ça a été très difficile finalement, mais je pense pas qu'il faut en faire une tendance qui est depuis le début de l'année nécessairement.
Puis Mike McDaniel, c'est un jeune coach. On va voir là, si ses débuts de match continuent d'être efficaces. Merci François pour ta question. On passe à Robin. L'échange de Wilson aux Broncos se révèle un coup fumant pour Seattle. Compte tenu de l'argent épargné, est-ce qu'ils auront eu en retour, tu nous rappelleras ce qu'ils ont eu en retour, Steph, pensez-vous qu'à la longue, ça pourrait devenir un des échanges le plus à sens unique dans l'histoire récente de la NFL?
D'abord, merci Robin, qui est en train de se mériter la palme de notre auditeur le plus fidèle et actif, là, parce qu'à chaque semaine, il nous arrive avec des excellentes questions.
Ouais, on est obligé de les prendre parce qu'elles sont bonnes, ces questions.
Ben, c'est ça, on invite les autres à en faire autant, hein, c'est toujours agréable. Moi, des questions comme ça, là, t'sais, est-ce que c'est l'échange le plus à sens unique de l'histoire récente? J'aime analyser la transaction, mais aussi revenir un petit peu en arrière. Donc, rappelons d'abord la transaction. Les Seahawks, c'est sûr qu'à date, ils sont morts de rire. Là. On oublie les joueurs qui ont eu, là, qui sont marginaux, là, somme toute, c'est Noah Fant qui n'a pas un impact intéressant comme elle y est rapprochée. Drew Lock qui est un corps arrière réserviste. Mais les choix au repêchage obtenus, ça, c'est une belle mine d'or. Le premier choix 2022, ils ont sélectionné Charles Cross, qui est leur bloqueur partant du côté gauche, qui va être probablement leur bloqueur partant pour les 10-12 prochaines années. Là, ça semble un excellent choix. En deuxième ronde, parce qu'ils ont eu aussi le choix de deuxième ronde des Broncos, Boye Mafe, un ailier défensif partant encore là, qui a un bon impact depuis le début de l'année, qui joue beaucoup. Premier choix en 2023. Ça, c'est intéressant parce que les Broncos qui jouent excessivement mal depuis le début de la saison, si ça continue comme ça, là, en ce moment, les Seahawks, grâce à ce choix-là, parleraient sixième au total, Jean-Nic. Ça, c'est quelque chose de très, très gros dans l'échange. Si ça continue en ce sens-là, là, vraiment, les Seahawks vont pouvoir avoir la mainmise là, sur cette transaction-là. Et un autre deuxième choix en 2023. C'est beaucoup de choix. C'est un échange, justement, là, jusqu'à maintenant, qui est très à l'avantage des Seahawks, parce qu'en plus, Geno Smith joue très bien. Les recrues des Seahawks performent bien. T'es bien placé au repêchage de l'an prochain, alors que de l'autre côté, Russell Wilson se cherche et il coûte une fortune. Mais est-ce que c'est l'échange
le plus country, sens unique? Let's ride.
Let's ride. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu robotique, notre ami Wilson, en ce moment. Là. Mais... tu regardes l'histoire récente, il faut faire attention parce qu'il y en a eu des échanges dans ce sens-là. Je pense entre autres à l'échange Robert Griffin III. Rappelle-toi, là, Washington qui avait envoyé 3 choix de première ronde et un choix de deuxième ronde aux Rams pour avoir le deuxième choix total qui était Robert Griffin en 2012. Après, les Rams ont à peu près, tu sais, ils ont très mal utilisé ces choix-là. Tu sais, j'ai pas le décompte devant moi, mais quand tu regardes, il n'y avait pas fait grand-chose de cette transaction-là. Bref, là où je veux en venir, c'est que tout va dépendre de ce que tu fais avec tes choix. Tu sais, jusqu'à maintenant, pour les Seahawks, c'est très bien parti. Est-ce qu'ils vont... Là, la clé, c'est 2023, le prochain repêchage. C'est ça qui va nous dire à quel point ils ont eu le dessus dans cette transaction-là, parce que t'as beau obtenir 3-4 pelletés de choix au repêchage, si tu repêches pas intelligemment puis de la bonne façon, ben écoute, tout ce que tu auras fait, c'est du vent contre du vent.
Ben en tout cas, moi, j'enterrerai pas Russell Wilson trop tôt là. Je comprends que en ce moment, ça paraît vraiment mal. Là. Ils ont pas l'air bien coachés en plus les Broncos. Le contrat est vraiment lourd. C'est vrai là, tout paraît mal. Mais ils sont quand même encore à la porte des séries là. Les Broncos ne sont pas sortis. Même s'ils ont une fiche de 2 victoires, ma mémoire est bonne. Il reste
2 victoires, 5 défaites, ça commence à être un petit peu engouffré, là, par exemple.
Ouais, mais c'est pas comme si dans cette division-là, tout était joué non plus. Bref, attendons un peu avant d'enterrer les Broncos. OK, ouais. Nicolas Bergeron, qu'est-ce qui explique que des bons coordonnateurs ont de la misère avec le poste de head coach comme Matt Nagy ou Josh McDaniels?
Oui, puis il y en a plusieurs autres. C'est arrivé souvent. On parle de Nathaniel Hackett, justement, là, cette année à Denver. Moi, je répondrais à ça que c'est pas parce que tu es un bon stratège que tu deviens un bon CEO. Tu sais, le coach là, dans une équipe de football, il faut le voir comme ça. C'est le président directeur général, c'est le grand Manitou de toutes les opérations, c'est le psychologue en chef, c'est le responsable des ressources humaines. Il y a un côté très humain à être un head coach, où tu dois non seulement entretenir des bonnes relations avec tes joueurs, mais être au courant de toutes les situations de match. Tu dois être au courant des mouvements de personnel à travers la ligue pour toujours être au fait, là, pour pouvoir t'améliorer. Donc, c'est plus juste d'être dans les X, dans les O. Il y en a qui font très, très bien la transition. Il y en a qui le font moins bien. Tu sais, il y a des coordonnateurs qui sont tellement versés dans les X, les O, les stratégies, puis comment attaquer tel type de défensive.
Ils oublient de coacher.
Ben, ils oublient, c'est quoi, là, de coacher des humains, de diriger des humains, puis de faire affaire avec eux, puis d'entendre leurs doléances, puis d'essayer que tout le monde soit heureux dans une structure. Donc, ça devient pas évident des fois pour ces coachs-là qui ont de très, très bonnes réputations, puis qui peuvent être finalement, tu sais, je pense à un North Turner, ceux qui ont connu le football depuis longtemps. Ça a été un excellent coordonnateur offensif. Là. Franchement, dans la NFL, il s'est fait une carrière enviable, mais chaque fois qu'il y a eu le poste de coach en chef, je pense que c'est arrivé 2 ou 3 fois, ça a été très, très, très ordinaire comme résultat. Donc, il y en a des comme ça que, écoute, t'es pas condamné. Il faut juste que tu acceptes ton rôle. T'es peut-être pas dû pour être le président de l'entreprise, mais qu'un rôle de VP te convient très bien. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte. Mais c'est ce qui fait, là, je pense, qu'un bon coordonnateur n'est pas toujours un bon head coach.
Jonathan nous pose la question, est-ce que le début de saison des Giants devrait forcer l'organisation à offrir une extension à Daniel Jones?
Ça, c'est un point bien intéressant, là, Jonathan, parce que t'sais, Daniel Jones, en ce moment, avec ce qu'il a entre les mains, là, t'sais, il y a un très, très faible groupe de receveurs. Il n'y a pas de ligne à l'attaque. Il fait quand même très bien. Moi, je continue de croire que c'est Saquon Barkley qui transporte l'attaque et non Daniel Jones. Mais avec ce qu'il y a autour, le contexte ne joue pas pour lui et il s'en tire plutôt bien. De là à me précipiter à lui offrir une grosse offre et à dérouler le tapis rouge, moi, j'attendrais au moins là, t'sais, à la fin de la saison. Puis, ça serait certainement, dans mon cas, un contrat de type transition. Là. Tu sais, c'est-à-dire, tu le signes pas pour 6-7 ans à 200 millions. Là. Tu sais, il n'y a pas de gaffe à faire de ce côté-là parce que Daniel Jones, il y a encore trop de points d'interrogation. Donc, un contrat 2-3 ans, gros maximum. Tu sais, un peu comme, rappelez-vous, les Jaguars avaient fait avec Blake Bortles. Là. Il y avait eu leur grosse année en 2017. Il avait fait les séries. Ils s'étaient rendus en finale de conférence. Avec Blake Bortles, on disait « Ouais, il semble s'améliorer, mais ça reste Blake Bortles, on n'est pas sûr. » On lui avait offert un contrat de 3 ans, très peu de garanties, ce qui fait qu'après un an, on a dit « bah, ça fait plus de temps que ça, finalement. Ouais, » On est prêt
ça,
à...
dire là, c'est... Ça se voit plus, là.
Ben, tu le vois très peu, mais honnêtement, qu'est-ce que Daniel Jones obtiendrait sur le marché? Moi, je pense qu'il n'y a pas une équipe actuellement qui irait le chercher pour un gros contrat de 6-7 ans.
Un genre de Baker Mayfield, là, un contrat Baker Mayfield, peut-être.
Tu sais, un contrat de transition, c'est en tout cas, moi, c'est le plus loin que j'irais pour l'instant avec Daniel Jones, malgré l'excellent début de saison des Giants.
Merci Stéphane, merci à tous de nous avoir envoyé vos questions. Vous savez que c'est simple pour nous joindre. Vous pouvez le faire sur la page Facebook Nos précieux conseils fantasy. Vous pouvez aussi nous interpeller sur Twitter et vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, Steph.
La zone payante à quebecormedia.com. On le sait comme à chaque semaine, je le répète, mais il y en a qui n'ont pas entendu leurs questions cette semaine. On vous garde en banque, on tient le décompte, inquiétez-vous pas.
Merci. Après la pause, Steph, on revient avec les prédictions de la semaine 8 de la NFL. Bougez pas.